Dans le panier de Lisa, Lisa Giraud-Taylor.
Et bonjour, et nous revoilà. Et oui, on est revenu. Bon, alors, on a failli pas revenir, hein, vu la chaleur. Ah, écoutez, on a failli passer l'arme à gauche, mais bien enfermé dans notre grotte. Nous avons survécu. Ça a été très compliqué, hein. Le lutin a un peu fondu. Moi, comme dirait le lutin, il n'y a vraiment que le cerveau qui a fondu. Écoutez, on a fait ce qu'on a pu, mais on est de retour. Voilà, ils sont contents, les auditeurs de Liberté FM, ils se disent « Ah non, pas les deux demeurer, ah non, ils reviennent, pitié ». Alors écoutez, on revient avec une nouvelle formule, enfin avec deux formules. La première formule, alors à part cette émission-là, qui est exceptionnelle puisque c'est le dernier jour d'août et donc forcément on s'est dit quand même on va pas les faire patienter une semaine de plus pour leur faire notre petit bilan de l'été culturel. À partir de la semaine prochaine, donc le premier lundi du mois, il y aura la playlist du mois. Alors attention, on vous réserve the playlist, c'est-à-dire qu'on va vraiment réfléchir. Alors, le lutin fait un mode... vous savez, le chien, l'arrière des voitures. Ah là, il se dit, non, bah, pas réfléchir. Si, si, on va réfléchir. Tous les mois, on essaiera de vous proposer entre 8 et 10 titres. Ça dépendra comment ça cale. D'une playlist qui pourrait vous suivre tout le mois. Voilà. Alors, avec des chansons peut-être thématiques selon le mois ou selon ce qu'on a envie de vous faire passer comme message ou peut-être en se disant, bon, voilà, alors en septembre, on s'est dit, ouais, il leur faut des trucs un peu... hein, oui, qui vont vous remonter le moral. C'est compliqué, les impôts, la rentrée. C'est compliqué le mois de septembre. Puis il y avait la chaleur qu'on a eu, machin. Ouh là 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 là, on se dit, jamais il va faire frais. Voilà. Frais, quand on dit frais, c'est vraiment qu'on mette une écharpe et un bonnet quand même. Hein, voilà. Pas la petite veste du soir. Et donc voilà, ça sera notre petite playlist. Donc tous les premiers lundis du mois, notre playlist qui pourra vous accompagner tout le mois. Donc en fait, il y en aura pour un peu tous les goûts. Bon, on va essayer. Vous pourrez l'écouter, bah, évidemment, sur Liberté FM le jour même. Mais comme elle est en podcast, vous pourrez la télécharger sur votre téléphone, votre iPhone, votre je sais pas quoi, votre MP3, votre cassette audio, enfin ce que vous voulez comme média, et ou la télécharger tout simplement pour l'écouter à la maison sur votre moyen de diffusion préféré. Voilà, donc soit bah, vous l'écoutez en entier, soit vous vous dites « Ah ben non, moi ce titre-là, non, ça m'intéresse pas, mais la semaine prochaine, oui. » Voilà, ce sera diffusion et vous pourrez l'écouter tout le mois comme il vous sied. À la fin du mois, dernier lundi du mois, ça sera donc le panier culturel. Alors le panier culturel, ça sera forcément, on va dire, rassembler un peu tout. Alors jusqu'à présent, on faisait une fois les livres, une fois le ciné, ou les séries, etc. Là, on va tout mettre. Voilà. Alors on va vraiment choisir deux livres, par exemple. Un film, une série, un documentaire, peut-être une expo, peut-être quelque chose qui nous a plu, dont ça nous a attiré l'œil, ou un artisan, ou une sortie de quelque chose qui nous a plu, pour vous donner ce qui nous a été agréable, voilà, pendant le mois précédent. On a trouvé que cette solution-là était quand même mieux que de notre éternel, pile à lire du mois, plus qu'est-ce qu'on a lu ce mois-ci, machin. Donc vous saurez ce qui nous a plu à la fin du mois, mais avec de la musique, évidemment. Alors peut-être un peu plus de blabla que de musique pour le panier culturel, mais sinon, vous aurez la playlist. Hein, donc là, du côté musique, on va envoyer du bois. Voilà. Alors évidemment... comme c'est un bilan de l'été, on va vous parler de deux séries. Ah, oui, celles-là, elles nous ont plu. De deux livres. Alors, on en a lu beaucoup plus. Enfin, moi, j'en ai lu beaucoup plus. Il y en a qui n'ont rien foutu. Hein. Je dénonce pas du tout le lutin, mais il y en a qui ont vraiment rien fait à part du transat. et encore, le transat, c'est compliqué. Et après, à la fin, je vais vous... parler de 4 livres, enfin de 5 livres qui sont sortis et qui sont en train de sortir pour la rentrée littéraire, où vous pouvez aller vous jeter sur la librairie du coin ou à la médiathèque du coin pour pouvoir peut-être les réserver. Alors je ne sais pas si ça a retenu l'attention de vos libraires et de vos directeurs ou directrices ou agents de médiathèque, mais en tous les cas, moi ça m'a attiré l'œil et c'est forcément des livres que je lirai. Allez, on commence en musique. Oui, oh ben, on ne gâche pas les bonnes habitudes. Hein, voilà. Alors, est-ce que ça a un rapport non. Alors, écoutez, ça a été la reprise est compliquée. Alors, on a décidé de faire l'instant X, puisque c'est le moment T. L'instant X de Mylène Farmer. Et on se retrouve juste après pour les deux séries que l'on vous recommande chaudement, même s'il y en a d'autres quand même. Oui, on aurait pu parler de... Ah, mais non. Ah non, on n'a pas le temps. Voilà, tu arrêtes.
Ma femme, elle sait. Elle voit les
Alors après Mylène Farmer et l'Instant X, on va vous parler de deux séries dont la première a été diffusée sur Canal+, elle est toujours actuellement sur Canal+, elle s'appelle La Ville nous appartient. Alors nous sommes avec une famille mafieuse à Liverpool. Alors vous imaginez bien la bestiole, oui, grande fan de Liverpool, des Reds, mais de la ville aussi que j'aime plus que tout. J'ai foncé le voir. Alors il faut regarder cette série en VO pour les accents et pour le dialecte. Enfin, parler, c'est vraiment absolument fantastique. Moi j'ai tout capté, le lutin a s'est noyé. Ça c'est sûr. Alors nous sommes avec Michael qui est le bras droit en fait d'un certain Ronnie qui est en gros le chef baron de la drogue là-bas. Et c'est un garçon qui jusqu'à présent a toujours marché dans les clous, a toujours été le bon petit soldat, etc. Jusqu'au moment où il tombe amoureux d'une certaine Diana et où il entrevoit pour une fois dans sa vie le fait qu'il pourrait avoir un avenir autre que dans les activités criminelles. Alors, comme il importe de la cocaïne pour son ami Ronnie, qui en fait lui voudrait en faire son successeur aux grandes dames du fils légitime Jamie, qui est un peu pareil quand même, et qui se fait un peu évincer par son papouna, ils vont décider d'aller traiter une affaire directement en Espagne. Et alors là, je peux vous le dire tout de suite, ça part en vrille. Alors, si quand même. Quand le patron de ce réseau de drogue décide de partir avec Michael, donc, et femme, enfant, cochon couvé, si vous voulez dire, en Espagne, pour faire ce deal avec le réseau espagnol. Une transaction qui va, somme toute, assez mal tourner et qui va entraîner, en fait, tout ce petit monde à prendre ombrage, à scier la branche sur laquelle ils sont, plus ou moins les uns les autres, et vont se révéler les rivalités, les conseils des femmes dont on voit très bien qu'elles mènent quand même bien la barque, des égos complètement mal gérés, et bien sûr l'appétit de tout le monde pour la part du gâteau qui semble être assez énorme. Et quand Michael va décider de commettre, on va dire, l'irréparable, tout ça en gérant le problème de petite amie qui, elle, sait très bien qu'il est un mauvais garçon et qui tremble là-dedans, mais qui, en gros, ne veut pas savoir tout en sachant, mais voudrait qu'il change, mais elle ne veut pas qu'il change en même temps. Enfin, elle est un peu compliquée, la gosse. Lui, il n'est pas bien net non plus. Et donc, évidemment, vous imaginez que tout ça n'est pas facile à gérer. Alors, le casting est impeccable. En tête de gondole, James Nelson Joy, qui joue le rôle de Michael. Et c'est vraiment une série qui est extrêmement tendue jusqu'au dernier épisode. Il y en a 8. On sait pertinemment dès le début que ça va vriller. Vraiment, on se dit aïe 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 aïe. Mais on se délecte quand même. Alors, je le dis tout de suite, Lutin a trouvé ça sympa. Moi, j'ai trouvé que l'histoire d'amour entre Michael et Diana était vraiment cucu, la praline, de temps en temps. C'était même pas forcément crédible sur certains trucs. Mais bon, écoutez, ça passe, on s'en fout. Comme dirait le lutin, une rédemption est toujours possible, alors va pas commencer à t'exciter. Voilà. Ah ben, il me connaît bien, le lutin. Voilà. Alors, reste l'accent, la ville, les paysages quand ils sont en Espagne, les sous-intrigues, la violence non gratuite, quoique quelquefois quand même... Oh si, quand même, c'est un peu gratuit. Mais bon, bref, la haine, l'amitié, l'amour, le péché, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Ce côté un peu fébrile de Michael, qui est vraiment, entre guillemets, le héros de cette série. Évidemment, la fin ouvre une saison 2 qu'on espère. Après, si elle vient pas, ça peut se... Oui, ça peut se terminer comme ça, oui. Mais... on aimerait bien une saison 2 pour savoir si véritablement il est aussi fleur bleue que ce qu'il paraît. Ce qui est quand même un gros problème quand on est à une activité criminelle de ce rang. Mais bon, écoutez, La Ville nous appartient. Si vous aimez ce genre de choses un peu mafieux, un peu borderline, etc. Bon, après, ça ne vaut pas pour l'instant Mobland avec... Non, hein, oui, ah bah il y en a un tout de suite, le sourire, les yeux qui ont explosé, Hélène Mirren. Pierce Brosnan, Tom Hardy. Allez voir Mobland saison 1. La saison 2 sort en mi-septembre. Je peux vous assurer que côté... oh là. Puis alors là, c'est sans à gogo. Hein. Ah oui, alors là, les tortures sont bien face à vous quand même. Hein. Autant là, plus ou moins, c'est soft. C'est... Là-bas, c'est pas soft du tout, Mobland. Non. Mais on en reparlera, vous verrez. Allez, petite série nouvelle, une autre série. Alors là, celle-là, on est d'accord sur la question. Elle nous a foutu par terre. Vraiment. C'est sur Netflix. Ça s'appelle L'attentat du vol Panam 103. Alors, tout le monde a entendu parler de cet attentat. Peut-être ceux qui n'étaient pas nés. Et encore, si, quand même. Bon, bref, c'est une question de culture. C'est l'attentat qui s'est passé le 21 décembre 1988 au-dessus de Lockerbie, donc en Écosse, où faisant plus de 270 morts. Vous savez, cet avion qui a littéralement explosé au-dessus de cette ville-là et qui alors a fait, bien sûr, les morts dans l'avion, mais à terre aussi. Voilà, et sans compter évidemment les blessés, les traumatisés, tout ce qu'on va avec. Alors c'est une série qui est tirée de faits réels. Dès le début, ils vous le disent, il y a 2, 3, 4 personnages qui ont été un peu l'amalgame d'autres personnages, en fait, pour faire une série plus condensée et faire passer des choses qui n'étaient pas forcément faciles de faire avec 100 000 personnages. C'est véritablement le suivi de l'enquête qui s'est menée sur pratiquement plus de 12 ans, une enquête minutieuse qui est hyper réaliste, qui est sans misérabilisme, il n'y a pas de larmes excessives, mais tout est hyper bien filmé. C'est une série, mini-série britannique qui a été donc coproduite par le BBC et Netflix, qui se focalise vraiment sur le travail et la collaboration entre l'équipe locale de police écossaise et un service du FBI qui a été, mis sur l'affaire parce qu'il y avait beaucoup d'Américains. C'était un vol américain. Panam, c'était une compagnie américaine à l'époque. C'était une compagnie américaine qui a été rachetée depuis et qui, en fait, patauge un peu beaucoup parce que le FBI prend compte en fait uniquement de savoir qui a fait l'attentat contre les Américains. Les familles, la souffrance des gens, etc., ça leur passe, mais à 300 000 au début. Sauf que lorsque les pistes se précisent et qu'ils vont devoir traquer les responsables de l'attentat, ils doivent travailler avec cette police écossaise qui, eux, en fait, sont arrivés sur place en premier. Notamment, on va suivre l'inspecteur Ed McCuster et son chef John Orr, et ainsi qu'un autre policier qui s'appelle Sandy, qui ont vu, parce qu'ils étaient d'astreinte ce jour-là, tomber des morceaux d'avion, des morceaux de gens, sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de kilomètres autour, sur le village, enfin sur certaines maisons du village, mais aussi dans les champs et ailleurs, et qui vont être les premiers à voir. Alors le premier épisode est absolument autant spectaculaire qu'anxiogène, mais alors il est complètement bouleversant. Parce qu'on se retrouve avec des détails qui sont dans la documentation des investigations, c'est-à-dire les indices. Ils vont trouver des bagages, des morceaux de corps, des corps qui sont toujours attachés, des gens qui vont décider de rester à côté de ces gens-là, morts, mais seuls, au milieu d'un champ, en disant bon, on ne peut pas le laisser tout seul toute la nuit, il faut le veiller, etc. Et en fait, on va assister, évidemment, à l'enquête, mais à ce côté très différent de traitement. C'est-à-dire que du côté écossais des habitants, ils prennent tout de suite les gens en apathie. Ils sont prévenants. Ils vont même jusqu'à trier les effets personnels des victimes, à laver les vêtements, à les plier, à faire en sorte que la famille, s'ils ne peuvent pas récupérer les corps, parce que c'est un peu compliqué, ils récupèrent au moins des choses en bon état et pas des choses avec du sang dedans, du sang dessus ou autre chose. Voilà. Et vraiment, il y a l'apport d'une jeune attachée de sénateur américaine, une jeune femme pleine d'empathie, pleine de on va dire d'action, elle est boum boum, elle rentre dedans, qui en fait va aider la police écossaise et va mettre le FBI le nez dans la merde, dans sa merde en tous les cas, en disant attendez, excusez-moi, l'empathie vous connaissez pas, il y a un minimum pour parler aux familles, etc. Alors oui, hein, bien sûr, il y a toute l'enquête, l'identification de la piste, puisque finalement, c'était un attentat qui avait été perpétré par les services libyens, d'ailleurs qui va aboutir à un procès en mai 2000 et à la condamnation d'un des agents du service de renseignement libyen qui va être libéré sous le coup de « je vais crever dans 3 mois d'un cancer ». En fait, il a tenu au moins quelques années de plus. Mais vraiment, c'est une... alors, il faut avoir un moral hein, pour regarder ça. Honnêtement, si vous n'avez pas le moral, n'y allez pas. Hein. Parce que la fin est bouleversante. Vraiment, alors, la fin, même si on sait ce qui est arrivé, hein, mais la fin vraiment de la série et montrant ce qui s'est passé après le procès, c'est, moi, ça m'a... j'étais aux larmes. Hein, je crois que j'ai sangloté pendant au moins 5 minutes. Vraiment, il y a... toutes les horreurs qu'on peut voir, mais aussi, en fait, il montre l'hommage des habitants de Lockerbie, des policiers, de l'impact que ça a eu dans leur vie aussi, parce que ça a été très compliqué pour les gens qui ont vu ces horreurs ce soir-là, et de voir la compassion et la solidarité d'une communauté, parce que bah, ils ont été là. Du début jusqu'à la fin, ils n'ont jamais vacillé. Et pourtant, Dieu seul sait qu'ils ont payé le prix aussi moralement des horreurs qu'ils ont vues le soir même, mais les jours suivants. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, que vous ne connaissez pas trop et que vous vous dites « Ah, mais ouais, j'en ai entendu parler, mais je connais pas bien. » Honnêtement, l'attentat du vol Panam 103 sur Netflix, vous pouvez y aller parce que vraiment, c'est très bien foutu, c'est très bien interprété. Et je vous dis, il n'y a pas de misérabilisme, il n'y a pas de truc larmoyant, etc. C'est du clinique sur l'enquête. Voilà. Et vraiment, il y a des acteurs qui sont... mais vraiment à l'unisson partout, et même ceux qui sont, on a l'impression qu'ils vivent dans leur bulle, ils sont exceptionnels. Voilà, donc voilà, ça c'était les deux séries de l'été. On va faire une petite pause musicale, ah, surtout que c'est moi qui ai choisi. Ah bah, c'est, tu m'étonnes. Alors, Niagara, j'ai vu. Ah bah oui, j'ai vu, oui. Ah bah, pour les deux livres. Ah oui, j'ai vu. Ça m'est... Ah bah, écoute, fou, les vieux. Bon, écoutez, hein, c'est la reprise. On fait à peu près ce qu'on peut. Hein, voilà. Donc, Niagara, j'ai vu. Et après, je vous parle de deux livres que j'ai lus cet été. Parmi tous ceux que j'ai lus cet été et que j'ai beaucoup aimé. C'est des suites, hein, donc, de saga. Donc, évidemment, attention, hystérie en vue.
Yeah.
Alors, elle a vu, mais moi aussi. Enfin, j'ai lu, en vérité. Voilà. Oui, ah oh, bah écoutez. Hein. Alors, j'ai lu la suite de deux sagas. Donc, la première, c'est Mourir en juin. Oui, de Alan Parks. C'est sur ma lancée hein, des aventures de Harry McCoy. Alors oui, l'auteur a décidé de lancer une saga avec un par mois. Donc vous avez janvier noir, machin, etc. Et donc nous sommes à mourir en juin. Voilà. Alors nous revoilà avec ce cher Harry. Alors ses amours, ses amis, ses ennemis, ses tas d'emmerdes. Oui, parce que c'est Barbara C. de 12 hein, qui nous les cumule. Alors cette fois-ci, son adjoint Wati et lui sont affectés à un autre commissariat, celui d'une autre partie de la ville de Glasgow, donc de Posil. Il comble les manques suite à des restructurations. Et évidemment, Wati penche plutôt sur le fait qu'on les ait punis suite au comportement dans le mois précédent de son chef, Harry. Hein, alors que, en fait, ce dernier sait très bien pourquoi il est là, puisque, en fait, il est sous couverture. Alors, même si elle est un peu mince, sa couverture, mais il est là pour une enquête interne. Mais personne ne le sait, même pas son adjoint. Alors, on est à l'année 1975. En juin, bravo Lisa, dans ce coin, et petit à petit, on va retrouver des SDF qui vont mourir à cause d'un alcool frelaté. Et ça touche particulièrement Harry, d'autant plus que son père fait partie du contingent de ces alcoolos sans-abri, et qu'il n'est pas très rassuré quand même. Alors, ils n'ont pas du tout de bons rapports tous les deux. Ils se fréquentent pratiquement pas du tout, mais enfin, ça n'empêche que c'est son paternel. Et de l'autre côté, il y a une femme, la femme d'un évangéliste, qui se pointe dans un commissariat et qui vient déclarer la disparition de son fils. Fils qui n'existe pas. Alors, pas de traces du gosse, on ne sait pas qui c'est, etc. Alors évidemment, comme si ça ne s'y faisait pas au bonheur de Harry ou à son malheur, on va dire ça comme ça, il va passer de squat puant en soirée huppée, puisqu'il a trouvé une jolie demoiselle qui lui vient de lui. Surtout qu'il n'est pas moche le gars, d'après les descriptions. Alors elle est belle, elle est héritière, elle est une célèbre actrice du coin, elle s'appelle Margot. Et bien sûr, le tableau ne serait pas complet si son meilleur pote d'enfance, Cooper, n'avait pas décidé d'éliminer la concurrence, puisque je rappelle, son meilleur pote est le caïd du coin, super super. Voilà, alors évidemment, comment se faire encore plus d'ennemis que prévu? Ah ben, c'est ce qu'il essaye de faire à chaque fois, hein, voilà. Alors c'est un sixième opus qui explore vraiment. Alors bien sûr, il y a des intrigues et des sous-intrigues toujours qui s'entremêlent à chaque roman. Avec un côté assez sombre, mais cette fois-ci, c'est vraiment sur les traumatismes d'enfance et cette filiation, en fait, qui explique beaucoup, beaucoup dans le comportement d'Harry, de sa propension à l'autodestruction absolue et à limite se tirer toujours une balle dans le pied. Dès qu'il a un bout de bonheur qu'il a atteint et qu'il est heureux, paf, il arrive à tout faire foirer. Hein. Oui, c'est une spécialité. Alors, deux soubresauts en révélation, de mort en corps à corps, je vous dis. Ah oui, si, j'ai essayé de faire un jeu de mots, il a rigolé. Non, c'est pas un jeu de mots, lutin, ça. Mort en corps à corps. Oh, pardon. Oh, j'avais pas. Ah non, c'est entre nous. Oh là, mon Dieu. Ah oui, j'avais oublié. Ah, j'avais oublié ce titre. Oh, pardon. Donc, Harry nous entraîne toujours à sa suite avec une grande délectation. Moi, à chaque roman, je me dis que la barre est toujours très haute et à chaque fois, Alan Parks arrive à rehausser le niveau du précédent. Là, Mourir en juin, moi, perso, il m'a torturé le cerveau, il m'a laissé alors vraiment pantoise et impatiente sur et de la fin, je vous le dis tout de suite, parce que chaque personnage suit son chemin dans un univers qui est riche, qui est cohérent, qui est hyper bien documenté. On est dans le Glasgow des années en l'occurrence des milieux des années 70. Les intrigues sont très bien construites, c'est toujours planté dans une ambiance de ces années un peu sex, drogue, rock'n'roll. Glasgow, la mafia, le chômage, les starlettes, les policiers douteux, les amours, les amitiés, les trahisons, l'industrie qui commence à se casser un peu la gueule. Bref, Alan Parks, il maîtrise son personnage, mais il maîtrise sa ville, il maîtrise l'époque, il n'épargne absolument personne, hein, principalement son héros, et particulièrement notre cœur. Alors là, je vous le dis tout de suite, au milieu de cette noirceur ambiante, il y a toujours un morceau de ciel bleu. Alors, bleu, pas ciel, hein, parce que quelquefois, c'est quand même un bleu assez soutenu. Ah ben si, quand même. Mais franchement, On se dit toujours, pourvu qu'il n'y ait aucun nuage qui vienne ensombrir le mois de juillet, ce qui est quand même assez mal parti. Hein. Moi, je vous dis, vu la fin, le mois de juillet, ça sent mauvais pour Harry. Quand même. Mais ce type est un bonheur, vraiment. Si vous ne connaissez pas la saga de Harry McCoy de Alan Parks, mais allez-y, si vous aimez le policier ancré dans les années 70 avec un personnage vraiment cabossé par la vie, mais avec une multitude de bons personnages secondaires, avec des intrigues qui se tiennent, avec vraiment un thriller policier bien foutu, Alan Parks, Mourir en juin, en tous les cas, commencez par le début, parce que si vous arrivez à Mourir en juin, alors attention, on peut le lire en one shot à chaque fois, mais c'est dommage parce qu'il y a vraiment la progression de chaque personnage, et donc ça c'est vraiment bête. Et deuxième livre que j'ai lu d'autres, saga, l'autre saga. On en est au septième, celui-là. Ça s'appelle L'écho des ruines de Harald Gilbert. Alors attention, on saute d'un policier, on va dire contemporain, à un policier historique, puisque nous en sommes au septième opus. C'est pas le dernier, hein, puisqu'il y a deux autres opus qui sont pas encore traduits, hein, en français. Ils sont en allemand, mais pas encore en français. Cette fois-ci, c'est recentré principalement sur la police criminelle de Berlin. On est vraiment dans les relations entre les quatre zones alliées soviétiques, dans le blocus, dans le Berlin en ruine, dans le Berlin en proie au marché noir, avec les changements monétaires qui commencent à s'instaurer puisque les soviétiques veulent carrément verrouiller le truc, les rivalités entre le côté ouest et les soviétiques, et bien sûr, si ça... Ah bah non, il y en a toujours qui veulent se rajouter. Il y a des gangs qui profitent de la confusion pour braquer, voler, tuer, avec toujours un peu plus de violence. Alors, L'écho des ruines, et vous comprendrez le pourquoi du comment de ce titre à mi-chemin, voit donc le commissaire Oppenheimer qu'on a connu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1944 à Berlin. Donc on le suit petit à petit. Et ses adjoints vont remonter un fil d'un gang donc, qui scène autant de morts que d'interrogations. Il est dirigé par un certain jeune homme qui s'appelle Joe, qui est hyper violent, en fait, qui est fou de films américains sur les mafias, les malfrats, et qui, en fait, décide de se la jouer un peu à l'américaine. Donc, il décide de jouer sur tous les tableaux, drogue, racket, vol, chantage, prostituée, vas-y que je t'en passe. Alors, un jour, il y a trois cadavres qui sont découverts sous des gravats, évidemment, Oppenheimer et ses troupes vont se lancer à la traque de ceux qui ont fait ça. Alors, bien sûr, on pense que c'est Joe, mais on ne trahit pas Joe, sinon, on rallonge la liste des défunts, vraiment. Alors là, il y a du double jeu, du secret, de la trahison, des éliminations des balances, et bien sûr, avec la police criminelle qui n'est pas au bout de ses surprises, ni sûre du pouvoir d'arrêter ces massacres. Alors évidemment, en plus, se rajoute le contexte historique du Berlin-Est qui apporte son lot de désagréments, et Harald Gilbert, par petites touches cette fois-ci, moins que dans les autres, décrit le monde post-Seconde Guerre mondiale à Berlin, cette poudrière au milieu des ruines qui ne demandait qu'à s'enflammer de nouveau pour un rien, sans compter évidemment sur les nostalgiques du Troisième Reich, nos amis les antisémites qui refont surface des ruines, et bien sûr l'engraissement des alliés et des soviétiques sur le dos de la paix, si évidemment ça s'est passé. Alors, moi, franchement, j'ai beaucoup aimé cet opus. C'est encore une longue lutte cachée entre les deux forces en présence. Il y a un bon vieux flic contre un ripou, on va dire. Mais Oppenheimer revient toujours sur les démons de la ville, des vies, de l'histoire, etc. Moi, j'aime cette saga surtout pour le côté policier historique. Il y a un gros travail de documentation tout le temps pour montrer le contexte. Il est dur, il édulcore absolument rien, comme beaucoup de ses compatriotes écrivains allemands contemporains comme Volker Kutscher, etc., quand ils s'attaquent à l'histoire de l'Allemagne, ils édulcorent absolument rien. Pour la petite histoire, ces bandes de jeunes existaient et pullulaient à Berlin post-Seconde Guerre mondiale. Ils étaient très, très, très jeunes. Il y en avait certains qui avaient entre 14 et 16 ans. C'était des gamins qui n'avaient connu pour la plupart que la violence des combats, la pervitine, l'embrigadement, bien sûr des jeunesses hitlériennes, et ils n'avaient plus de garde-fous. Ils étaient devenus imprévisibles, bruts, revanchards, aiguillés quelquefois, et très souvent, par soit les alliés, soit les soviétiques. Bref, L'écho des ruines, c'est pas le meilleur des sept opus, vraiment. Mais à chaque fois, il y a un très grand plaisir à retrouver la plume déjà de Harald Gilbert et aussi son commissaire et ses aventures. Bon, alors vivement les deux prochains opus qui sont sortis en 2024 et 2025 en Allemagne. Donc on espère que Tanzpalast et Attentat sortiront aussi, hein, puisqu'il y en a un qui se passe en 50 et l'autre en 52. Et puis après, la saga est terminée. Donc vivement le prochain Harald Gilbert. Celui-ci, c'était donc L'écho des ruines. Allez, petite musique. Oh, petite musique que j'aime bien. Bah, c'est mes chéris. Alors, il y en a un qui va soupirer parce que dès que je prononce le mot de Alex Turner, ça l'énerve. Donc, Arctic Monkeys, it would better be a miracle. Écoutez juste après les 5 livres que j'ai repérés de la rentrée littéraire et vous serez toujours à même de les acheter, de les emprunter ou de vous les faire prêter. D'ici là, on écoute le sexy Alex Turner. Oui, on pense avoir. Hein. J'ai le droit de faire ce que je veux avec Alex Turner. Enfin, ce que je veux, tout est relatif. Il se fout de moi à chaque fois. Mais je patoche sur ce titre-là à chaque fois parce que je ne sais jamais dans quel ordre c'est.
Don't get emotional, that ain't like you. Yesterday's still leaking through the roof. But that's nothing new. I know I promised this is what I wouldn't do, but somehow giving it the old romantic fool seems to better suit the mood. So if you wanna walk me to the car, you ought to know I'll have a heavy heart. So can we please be absolutely sure that there's a mirror ball? You're getting cynical and that won't rose tint back on the exploded view. Darling, if I were you, and how's that insatiable appetite for the moment when you look them in? And say, baby, it's been nice. So do you wanna walk me to the car? I'm sure to have a heavy heart. So can we please be absolutely sure that there's a miracle for me?
Je l'ai laissé jusqu'à la fin, tellement j'aime sa voix. Oh là 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 là. Alors, nous avons donc les quatre choix de la rentrée littéraire de Lisa, plus un que j'avais repéré, que je lirai pas forcément en septembre, mais que je vais lire assez rapidement, parce que c'est le personnage principal qui m'intéresse. C'est Claire Duvivier qui a écrit La Dame de la Seine, parue aux Forges du Vulcain, qui parle de Christopher Marlowe, que j'adore comme personnage en britannique. Et franchement, ce type m'a toujours fascinée quand j'ai vu qu'elle avait écrit quelque chose sur lui. Je vais me précipiter. Évidemment. Oh bah écoutez, quand on est fan, hein, on fait ce qu'on peut. Alors, les quatre vraiment que je vais lire, en tous les cas en septembre, c'est sûr, ça s'appelle Le Diable rit avec nous 1 de Xavier-Marie Bonneau. Alors, honnêtement, depuis que j'ai connu Xavier-Marie Bonneau en tant qu'auteur, sa plume, désormais, j'essaye de pas louper de Bonneau. Alors, on est avec une photographie qui est retrouvée dans les affaires d'un certain Émile, qui est le grand-père du narrateur. Il y a trois légionnaires qui posent en Indochine en 1949. Et c'est une image qui va fissurer la mémoire familiale, jusque-là intacte, puisque Émile est une figure admirée, un officier respecté, etc. En fait, en gros, c'est un peu le héros de la famille. Sauf qu'en cherchant à identifier un des hommes sur la photographie, le narrateur rencontre un certain Charles Morin, qui est engagé volontaire dans la Waffen-SS pendant la Seconde Guerre mondiale et condamné à mort par contumace à la libération. Il va échapper au procès de l'épuration en s'engageant dans la Légion étrangère pour dissimuler son passé en changeant de nom. Et donc, ça va affecter évidemment la vision du narrateur sur ce fameux grand-père. Donc, ça s'appelle Le Diable rit avec nous de Xavier-Marie Bonneau. Ah, bah écoutez, vous allez voir, il y a deux thématiques qui ressortent et c'est souvent deux thématiques qui me plaisent. Deuxième livre que j'ai repéré, ça s'appelle La quête de la toison d'argent, donc de Dubois, en fait, la toison d'argent, c'est le coton cultivé dans le sud des États-Unis, pour ceux qui ne savent pas. Et en fait, on est en présence de Zora et Blaise, qui est un couple de jeunes noirs africains, donc afro-américains si vous voulez, qui s'aiment depuis l'enfance et qui voudraient échapper à leur destin. Alors elle c'est un peu la sauvageonne du marais, si vous voulez, et elle voudrait aller à l'école, et lui, qui écrit quand même assez bien, voudrait intégrer la bonne société. Simplement, bon, ben, ils sont en plein milieu de l'Alabama, blanche. Pas une bonne idée. Il décide en fait de s'allier à des personnes un peu du nord, etc. Et donc forcément, c'est un temps qui est assez impitoyable, puisque le retour du bâton après la guerre de sécession va être compliqué. Et donc c'est véritablement un livre sur l'émancipation légale des Noirs américains, de des instruments d'oppression. Alors à la fois économiques, politiques et légaux qui vont leur être imposés en pleine figure et qui s'acharnent d'ailleurs aussi bien sur les blancs que sur les plus pauvres, utilisant la race pour empêcher les possibles alliances des classes. Alors inutile de vous dire que c'est un genre de livre qui risque de bien m'énerver, bien de me révolter, mais mes amis américains m'en parlent depuis et n'arrêtent pas de me dire qu'il faut absolument le lire, donc voilà qui sera fait. Autre livre, troisième, c'est Un marché noir de Bérénice Bichat. Oui, vous allez vous douter, vous avez dit, ah ça y est, alors l'autre, elle est repartie dans ses marottes. Alors, nous sommes à Paris en 1942. Et Servane a 17 ans, à la fin, il y a un rationnement, elle a peur des arrestations, c'est un peu son quotidien, et elle fait tout pour rester du bon côté. De l'autre côté, il y a Paul, qui est un ancien militaire désabusé, qui trafique avec tout le monde, et pour lui, profiter, c'est de se maintenir. Alors en 1943, le marché noir combattu par Vichy change de statut, les livraisons deviennent plus laborieuses pour certains et beaucoup plus nobles pour d'autres. Et recrutée comme porteuse par le fameux Paul, Servane va pense au début agir pour la résistance. Elle va se demander comment elle fait. Et les bombardements s'intensifient, les dénonciations se multiplient et chacun en fait s'enferme dans une illusion de ce qu'ils pensent être leur vie. Mais malheureusement, comme on le sait, la guerre ne laisse personne indemne et à la fin de la guerre, eh bien, il faut bien affronter le prix réel de ses choix, même si on a imaginé qu'on œuvrait pour le bien. Donc ça s'appelle Un marché noir de Bérénice Bichat. Et le dernier, c'est de Mademoiselle Cécile Chabot. Alors, je vous en avais parlé pour ses livres précédents, notamment sur Nicole Mangin, etc. Là, elle revient sur avec un livre qui s'appelle « Si nous n'étions captives », sur quelqu'un que j'ai lu, une écrivaine qui s'appelait Claire de Duras. De Duras, oui. Et oui, on ne dit pas Duras, de Duras. Qui était une bretonne blanche, noble, et qui a écrit Ourika. Et donc, Ourika de Beauvau était adoptée, sénégalaise et noire, et elles sont nées à 3 ans d'intervalle, elles auraient même d'ailleurs pu se rencontrer, mais c'est Claire de Duras qui va entendre parler de l'histoire d'Ourika et qui va en faire un roman engagé contre l'esclavage dans ce 19e siècle, et tout le monde va parler de ce roman-là. C'est l'un des premiers, entre guillemets, best-sellers de l'histoire littéraire. Je l'avais lu au lycée, avec un professeur de littérature qui nous l'avait fait lire et qui nous avait fait lire à la fois certains écrits autres que Ourika de Duras, mais de toute l'histoire de cet esclavage au 19e siècle. Donc quand j'ai vu que Cécile Chabot s'attaquait à ces deux monuments, on va dire, ça sera avec grand plaisir que je pourrai la lire. Voilà. Donc ça, c'est les quatre livres de la rentrée littéraire que j'ai retenu, plus La Dame de la Seine de Claire Duvivier qui parle de Christopher Marlowe. C'est Marlowe. Et alors, si vous cherchez, c'est Marlowe. Voilà. C'est un personnage absolument atypique. Un mec qui est... Ah non, mais il est fascinant. Alors, il est très particulier. Attention, hein, j'ai dit atypique. Hein, voilà. Mais moi, fou là là, depuis que j'ai une vingtaine d'années. Ouh, il fait parquer comme Évariste Galois, etc. De ces types que je trouve absolument fascinants. Voilà. Donc ça, c'était, écoutez, le panier culturel de Lisa. Ce que j'ai eu, ce qu'on a vu, ce qu'on j'ai lu, ce que je vais lire. Les expos, écoutez, vu la chaleur cet été, on n'en a pas fait beaucoup. On avait vraiment envie d'aller voir des expos à Paris, mais au final, honnêtement, se taper... Alors, le TGV s'est climatisé, mais les retards sur les lignes, parce que la SNCF ne sait pas entretenir ses voies, ou la clim en... Et puis, honnêtement, crapahuté à Paris par 40, non merci. Hein. Voilà, donc on n'a pas vraiment vu grand-chose cet été. Il y a quelques expos qui vont arriver, qu'on a repérés, qui nous donnent bien envie, mais on va attendre l'automne. Hein. Oui, les températures plus clémentes aussi, voilà, ça c'est fait. Bon, écoutez, on va se quitter. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour donc la première playlist mensuelle de Lisa qui espère que ça va vous plaire. Et d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Nous, chez Liberté FM, on s'occupe de vos petites oreilles et vous vous occupez de vous, de vos proches et de ce que vous aimez. Et d'ici là, j'espère de nous, hein, et d'ici là, on écoute Harry Styles, on se quitte sur Late Night Talking. Ah ouais, une petite conversation de nuit avec Harry Styles. Pas bête. Pas qu'il me fasse... Non, c'est pas du tout ça. Non, c'est juste papoter avec lui. Il pourrait être mon fils, on va se calmer. Quitte à papoter avec un beau garçon, ça sera pas avec Harry Styles. Moi, j'en vois un autre, hein. Ah là là, oui, mais si. On vous le dira pas. La lutin me regarde en me disant, tu sais que t'es pathétique. Ouais, je sais, je m'en fous. Il y a Harry qui chante. Ciao.
Haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah. When nothing really goes to plan, you stub your toe, break your can. I'll do everything I can to help you through. Late night talking about anything. never been a fan of change, but I'd follow you to any place. If it's Hollywood or Bishop's Gate, I'm coming too. Talking.